I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Grand Contrôle.
Libre et curieux.
Libre et curieux. Littérature et bière glacée.
On lit, on voyage, on revient.
Vous apprendrez à savourer les mots et le langage.
Grande Fleur Café par Hugues Robert.
Bonsoir, bienvenue sur le Grande Fleur Café de Grande Contrôle ce soir. Ce soir, on va parler beaucoup moins de littérature que d'habitude, dans le cadre de la Food Art Week coproduite par Grande Contrôle. On va inaugurer une soirée consacrée au sucre, à ses enjeux pour notre alimentation et notre planète. On va profiter de la présence de Gilles Fumet, qui est chercheur au CNRS et professeur à la Sorbonne, auteur d'un certain nombre d'ouvrages sur les thèmes qui nous préoccupent ce soir, notamment « Manger local, manger global » aux éditions du CNRS en 2010, un livre avec un titre particulièrement étonnant, « Les radis d'Ouzbékistan » chez François Bourin en 2011, dont le sous-titre « Tour du monde des habitudes alimentaires » nous rassure aussitôt quant à son sérieux. « Géopolitique de l'alimentation » aux éditions des sciences humaines en 2012, c'était la deuxième édition, dont la préface est signée par notre deuxième invitée ce soir, Juliette Elson, qui est présidente de Slow Food Paris. Et nous rejoindra un peu plus tard dans l'émission Catherine Floic, qui est journaliste et éditrice, que beaucoup d'entre vous connaissent principalement pour son édition de textes de poésie et de prose poétique particulièrement enthousiasmant chez Argol, mais qui anime aussi les ateliers d'Argol, donc consacrés à la cuisine et un certain nombre de choses. Et elle nous parlera ce soir de son tout dernier livre qui sort aujourd'hui, qui s'appelle « Les semences en question ». Alors, ce soir, on va parler d'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose qui est personnel, qui est intime, mais c'est aussi quelque chose qui est industriel, économique et politique. L'alimentation, c'est des traditions, c'est des coutumes, c'est des modes, c'est des lobbies, c'est des choix. On va essayer d'attaquer ça en 45 minutes par divers angles. Et on va se retrouver autour donc de la géopolitique, la politique de l'alimentation.
Grande Fleur Café. Hugues Robert.
Alors, géopolitique de l'alimentation, mais aussi politique des semences, politique du ralentissement. On va aborder ces sujets. On va les placer quand même d'emblée sous le signe littéraire du grand Paolo Bacigalupi, qui, malgré son nom italien, est américain, auteur de science-fiction lauréat de très nombreux prix dans le genre, dont le magnifique La fille automate de 2009, qui est une ode extrêmement intelligente et nettement débridée au maintien d'une autonomie alimentaire dans un monde plus que jamais, ou pas, est-ce que c'est plus que jamais, soumis au règne des puissances économiques. Et on va démarrer tout de suite avec Gilles Fumet, donc. Pour nos auditrices et nos auditeurs qui ne sont pas des spécialistes des enjeux géopolitiques de l'alimentation, est-ce que vous pouvez resituer un petit peu voilà, comment vous êtes venu sur ce terrain d'études, sur ce travail, et comment l'alimentation a pris cette importance en fait, politique pour vous ?
Alors sur le terrain, c'est très simple, c'est à la maison, quand il y avait une bouteille de Bourgogne, il y en a qui voyaient le vin, moi je voyais le toponyme. Voilà, donc je me suis rendu compte très vite qu'on mangeait des toponymes. Voilà, et donc je me suis intéressé effectivement à cette dénomination de la nourriture en France, sachant que bon, il y avait des dérapages vers d'autres types de dénominations qui étaient quand même assez problématiques. Je pense par exemple à la barre chocolatée Mars. Bon, j'ai le temps cru que c'était une planète, et en fait c'était le dieu de la guerre chez les Romains, qui fait que ceux qui mangent du Mars, ben, évidemment ils ont l'énergie du dieu de la guerre. Voilà, donc toutes ces questions-là sont arrivées comme ça, et le volet politique, ça a été tout simplement en géographie, dans la foulée de ce qu'Yves Lacoste avait souhaité, faire de la géographie, c'est-à-dire bien faire attention de ne pas rester dans la nomenclature et pas seulement dire il y a du Bourgogne, il y a du Bordeaux, il y a de l'Alsace, mais de voir au fond pourquoi l'un a été meilleur que l'autre, pourquoi l'autre s'est appuyé au détriment du troisième, etc. etc. Donc bien voir qu'en fait, chaque choix, chaque produit, produit, chaque région. Évidemment, derrière, c'est le résultat d'un combat politique et géopolitique. Voilà, c'est un peu ça.
Alors précisément, le tout dernier ouvrage en date donc, que vous signez, qui est sorti ces jours-ci aux éditions du CNRS, l'Atlas de l'alimentation, qui est un ouvrage magnifique, hein, superbement illustré, et qui nous rappelle que si on arrive probablement à penser assez spontanément que les enjeux économiques, industriels de l'alimentation, donc la dimension géographie humaine et géographie économique, nous saute aux yeux, qu'il y a une inscription, en effet, dans les plis de la carte d'une réalité qui est tout sauf de la simple nomenclature, et que cet atlas permet de prendre en compte. Mais comment aujourd'hui, en 2018, il continue à y avoir une inscription justement purement géographique de cet aspect de la pratique alimentaire, des habitudes, bien que l'industrie mondialisée soit passée par là?
Bon, il y a une double inscription. Il y a d'abord le fait que tout ce qu'on mange vient de la terre ou de l'eau. De la terre ou de la mer. Il n'y a rien qui vient, pour l'instant encore, à part le Frankenburger là, des Californiens. Il n'y a rien qui vient d'ailleurs que de la terre et de la mer. Donc il y a une inscription là. Voilà. Et après, l'autre inscription, c'est la manière avec laquelle on mange, c'est le contexte dans lequel on mange. Et clairement, on ne mange quand même pas, on n'a pas les mêmes rapports à la nourriture selon qu'on est en Asie, en Europe, aux États-Unis, hein, pour faire simple. Et donc là, il y a tout un travail à faire, à savoir pourquoi les Chinois se sont passionnés pour le riz, pourquoi les Américains boivent du café en marchant dans la rue, et pourquoi en Europe, quand on a quelque chose à fêter, aussi bien une naissance qu'un décès, on se met d'abord à table. Voilà, donc c'est toutes ces questions-là qui font que les contextes sont éminemment importants, hein, et que les cultures, de ce point de vue-là, sont déterminantes dans la manière avec laquelle on se relie au monde pour attraper la vie des animaux et des plantes que l'on a soustrait à la nature, puisque c'est quand même bien ça. Hein. Les Chinois disent on prend la vie des végétaux et des animaux. Et nous, on ne le dit pas comme ça, mais c'est quand même bien de ça qu'il s'agit. Voilà. Mais que ça se fait dans un contexte, dans des contextes culturels marqués par les politiques. Il y a un cas très simple que l'émergence du halal, hein, aujourd'hui. On voit bien derrière cette insistance à vouloir manger de cette manière qu'il y a bien une question politique. Hein.
Grande Flore Café, les coups de cœur du libraire.
Alors du coup, j'ai une question pour Juliette Elson. On voit bien que ce comportement alimentaire, il y a toute une sociologie en fait, hein, de l'alimentation qui a été également explorée, donc qui n'est pas une géopolitique. On pense à des travaux de Flandrin par exemple, mais il y en a d'autres. Il y a une constitution d'actes individuels, hein, parce qu'on mange effectivement un héritage, une tradition. On parlait de certains aliments qui sont spécifiques à l'Asie, à certaines parties de l'Asie ou à l'Europe. Donc des pratiques qui sont ancrées dans le truc. Mais il y a aussi, donc, depuis au moins une cinquantaine d'années, un colossal effort en fait, de marketing, hein, de la part donc, d'une industrie agroalimentaire principalement occidentale, mais pas seulement. Et je me posais la question par rapport à ça, comment un mouvement comme Slow Food, dont Juliette Elson va pouvoir nous rappeler les principales caractéristiques, à partir d'une transformation de la pratique individuelle, peut arriver à peser en fait, sur peut-être le macro-système ou l'économie et la politique?
Oui, c'est une très bonne question, effectivement, parce que c'est tout le défi d'un mouvement tel que Slow Food qui en fait a germé sur il y a une trentaine d'années, hein, c'était au niveau du concept de la malbouffe. Et la malbouffe qui était incarnée, sans jeu de mots, par McDo. C'est en réaction effectivement à ce mouvement qui était émergent à l'époque que Slow Food est né pour expliquer qu'il existe d'autres modes quand même d'alimentation et qu'on voyait bien qu'il y avait une fuite en avant sur de la standardisation des goûts, sur la mainmise finalement, parce que c'est ça qu'il faut mettre aussi en regard par rapport à la sociologie de l'alimentation, c'est la mainmise de quelques groupes agroalimentaires. En fait, l'industrie agroalimentaire est née il y a 100-150 ans et elle s'est je crois que c'est encore pire que dans l'industrie. Elle sait aujourd'hui, il y a le top 5 des grands groupes agroalimentaires. Vous avez Nestlé, vous avez Pepsi Cola, vous voyez des groupes comme ça qui sont américains et occidentaux, effectivement, avec des groupes effectivement émergents aujourd'hui du Brésil et tout. Et c'est un peu contre ça qu'effectivement un mouvement comme Slow Food, qui est devenu international aussi, essaye de lutter contre ce souhait qu'ont ces groupes agroalimentaires de nous imposer finalement les goûts, parce que c'est de ça qu'il s'agit.
Alors ça, on y reviendra sûrement tout à l'heure, parce qu'il y a, malgré tout, avec Catherine Fleury à propos de semences, mais il y a à la fois une bonne nouvelle et puis qui est un peu ambiguë, parce que est-ce que c'est un arbre qui cache la forêt? Mais Bayer donc a racheté Monsanto et a décidé d'abandonner la marque Monsanto. Il y a un symptôme, est-ce que c'est quelque chose qu'on jette un peu, alors qu'en réalité ça ne change rien à la pratique du travail sur les semences, mais on va attendre que Catherine Fleuric nous rejoigne. J'avais une question, moi, qui n'est pas, j'espère...
Monsanto, je pense qu'il faut aller être plus fort que ça et dire qu'en fait, Monsanto s'est vendu à Bayer pour échapper à la justice. Voilà. Et que dès lors que maintenant la marque disparaît, toutes les poursuites sont terminées.
Absolument.
Voilà. Et donc, il n'y a plus de problème Monsanto. Voilà. Mais ce que ne sait pas Bayer, c'est qu'il va y avoir un problème Bayer. Voilà. Et qu'on va rappeler, par exemple, que Bayer est la firme qui a fabriqué le Cyclone B avec lequel on a exterminé les gens dans les camps de concentration. Et ça, on va le rappeler. Et on va dire qu'effectivement, du gaz des camps à l'industrie chimique d'aujourd'hui, il y a peut-être un tout petit pas que Bayer vient de franchir. Voilà, mais que ça ne se passera pas comme ça quand même.
Voilà, on rappelle à nos auditrices, à nos auditeurs, que Bayer est l'une des firmes en fait, héritières de l'IG Farben allemande, qui a été dissoute en fait, en 1945. Voilà. Mais donc BASF d'un côté, Bayer de l'autre, et puis quelques autres, sont les héritiers qui n'ont pas eu la responsabilité juridique donc, des actes d'IG Farben, mais qui ont évidemment gardé les profits.
Mais ce sont des pratiques tout à fait courantes de changer de nom, justement, parce que comme ça, on oublie tout l'historique.
Alors on essaye de le faire oublier, donc il y a aussi un travail de mémoire qui va avec le mémoire du goût, mais aussi mémoire historique, mémoire politique. Alors, sans me faire l'avocat du diable, j'avais quand même une question, parce que c'est quelque chose qu'on voit souvent revenir à propos justement de tout ce qui est contestation vis-à-vis de la malbouffe ou même simplement de la nourriture industrielle. C'est les aspects coûts économiques en disant « oui, mais la nourriture de qualité, c'est quelque chose qui soit coûte cher, soit demande d'avoir du temps ». Et donc, pour beaucoup de gens, c'est inaccessible, alors que nous, les bons industriels, nous rendons les choses accessibles, etc.
C'est exact. D'ailleurs, ils ont surfé là-dessus, puisque moi, je suis d'une génération où j'ai commencé à voir apparaître les plats cuisinés. Et c'était quoi les slogans? C'est de dire, ben, vous, les femmes, vous n'êtes pas arrivées à ce que vos maris fassent la cuisine, donc on va vous rendre la liberté et puis on va vous faciliter la tâche. Finalement, c'est un peu ça. C'est comme ça que se sont imposés les plats, les plats cuisinés, tout fait, etc. Et donc, effectivement, oui,
Oui, je pense que c'est quand même réduire la cuisine à un travail qui ne l'était pas forcément. Voilà. C'était, alors, bien sûr qu'on a mis en concurrence le travail domestique avec le travail à l'extérieur pour les femmes, mais on n'a pas tenu compte du fait aussi que dans le travail culinaire, il y a une transformation, il y a un savoir, il y a des compétences, il y a du plaisir à cuisiner. Il y a le don que l'on fait de ce temps à ceux à qui on offre à manger, qui sont des composantes importantes. Voilà. Et c'est vrai que les États-Unis, qui avaient industrialisé leur cuisine depuis un siècle et qui ont sorti les femmes des cuisines depuis la fin du 19e, pensaient qu'en Europe et en Asie, ça allait se passer comme ça. Et en réalité, Le vrai combat, c'est un combat culturel entre des manières d'envisager l'alimentation qui sont radicalement différentes. Aux États-Unis et d'une manière générale pour tous ceux qui utilisent la nourriture industrielle, l'aliment est un acte de liberté que l'on fait de manière individuelle. Voilà, c'est ça, j'ai faim, je mange. Et après, la question du prix, ça vient après. Et c'est le prix, ça a été fait pour dénigrer justement le fait que l'autre cuisine coûtait cher en temps. Et puis la deuxième manière de voir l'alimentation, c'est la transmission, c'est la relation, c'est le don, c'est le partage.
La convivialité.
La convivialité, oui. qu'ils ne sont pas capables d'envisager les gens qui pensent les produits alimentaires uniquement à partir de calories, à partir de ratios de rentabilité, et qui n'ont pas fait d'anthropologie de l'alimentation, tout simplement, pour savoir que derrière un verre de vin, non seulement il y a toute la culture du vin depuis 2000 ans, mais qu'il y a aussi tout ce qui fait la valeur du vin, c'est-à-dire évidemment le savoir qu'il faut avoir pour le boire, et puis la relation dans le partage.
Alors, j'avais une question pour vous deux, justement, par rapport à ces questions de culture, hein, de l'alimentation. Est-ce que vous sentez, en fait, dans vos différents travaux, donc géopolitiques ou au sein de Slow Food, que depuis un certain nombre d'années, il y a une forme de réappropriation par des populations, y compris défavorisées économiquement, d'un certain, quand même, peu à peu, art de vivre, d'un intérêt pour ce qu'on mange localement, ce qu'on est capable de faire, par rapport à une époque, me semble-t-il, pas si lointaine, où justement cette culture du bon goût, et je pense notamment au vin, était devenue, dans les années 80, l'apanage d'une classe de cadres supérieurs ou dirigeants internationaux qui, quelle que soit leur nationalité d'origine, sont passés par les mêmes types de MBA. Et dans leur bagage figure le fait qu'il faut connaître les bons vins de Bordeaux, les bons vins californiens, les bons vins australiens, etc. Que ça fait partie de cette culture un peu mondiale des élites et qu'il y avait une forme, non pas de confiscation, mais que les cours d'œnologie, ce n'est pas gratuit, que les bonnes bouteilles, c'est cher. Même, alors, est-ce que justement, ça, il y a quelque chose qui lutte contre ça ?
Si vous prenez le cas du vin, c'est très, très frappant de voir qu'aujourd'hui, alors que les Chinois sont capables de se ruiner pour acheter des bouteilles de Bordeaux hors de prix, que toute une catégorie de population se contente de vouloir découvrir les vins nature, par exemple. Les vins nature, c'est d'abord, ça coûte moins cher à fabriquer que les vins qui ne le sont pas. Et puis ensuite, c'est des vins qui ont des goûts très, très particuliers, pas du tout les mêmes que les Bordeaux, pour ne pas en nommer, et qui ne nécessitent rien d'autre que la curiosité, une certaine forme de générosité. Voilà, le sentiment qu'il n'est pas nécessaire de payer cher pour avoir une émotion quand on boit du vin. Voilà, et laisser les émotions chères à ceux qui veulent les payer ou qui ont les moyens de le faire, mais sans culpabilité, sans envie particulière, tout simplement parce que au fond, peut-être qu'une bouteille, ça ne mérite pas le prix démentiel que les Chinois veulent bien payer. Voilà, je pense que ça c'est pour le vin, mais tu peux...
Oui, je voulais souligner qu'au sein du mouvement Slow Food, on voit bien deux types de générations. Hein, plutôt ma génération qui a envie de transmettre, qui a envie de rappeler finalement aux jeunes que... Tout un savoir qu'il ne faut pas perdre. Et on a énormément de jeunes, en fait, qui viennent s'intéresser à la nourriture. Alors, c'est vrai que cette génération des 30-40 ans est un peu moins présente, mais ce qui est très, très réconfortant, c'est de voir qu'effectivement, il y a des tas de nouveaux réseaux, vous savez, de circuits courts pour s'approvisionner en fruits, en légumes, des marchés, etc. Et qu'il y a tout un mouvement, effectivement, qui s'amorce.
Donc ce sentiment que des choses bougent n'est pas qu'une impression.
Pas qu'une impression.
Risotto de poulet champignon.
De Marie.
Moi, pour mon risotto, je suis prestise. Je prends un riz spécial risotto.
Comme Marie.
Et je fais mon bouillon maison.
Comme Marie.
Et il est onctueux.
Ah, pas comme Marie.
Ah.
Avec sa touche de crème fraîche, celui de Marie, il est onctueux et fondant.
Mais non.
Si, goûte.
T'as toujours eu le sens du détail.
Comme Marie.
Marie, c'est déjà fait et très bien fait.
Donc Catherine Fleury nous a rejoint après cette page de publicité qui est une forme de clin d'œil puisqu'on parlait de nourriture industrielle et de nourriture moins ou non industrielle. Avant cela, donc, avec Gilles Fumet et Julia Telson, on parlait donc de géopolitique et de la manière dont le ralentissement, le changement d'habitude alimentaire d'actes individuels prend une dimension collective et une dimension éminemment politique. Et maintenant que Catherine Fleury nous a rejoint, donc comme je le disais en introduction, que je connaissais surtout en fait pour les éditions Argol, donc de littérature, mais qui anime aussi les ateliers d'Argol, donc qui nous en dira certainement quelques mots, et qui vient donc de publier aux ateliers d'Argol les semences en question, sachant qu'on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, les semences sont à la fois un archétype, un symptôme et un enjeu économique absolument central dès qu'on parle de géopolitique de l'alimentation et bien au-delà. Donc Catherine Floic, d'où est venu en fait cet intérêt pour les semences et par quel angle en fait y êtes-vous arrivé ? Pas nécessairement par la géopolitique.
Alors j'y suis arrivée par un angle tout simple de consommation. Et familialement, en ayant pris conscience avec des petits-enfants, mes petits-enfants, que l'alimentation, en fait, il fallait y être très vigilant. Et par une AMAP, j'ai découvert qu'il existait d'autres légumes que ceux que l'on trouvait. Alors moi, je suis privilégiée parce que j'habite Paris, j'ai des maraîchers parisiens sur lesquels il y a des maraîchers qui viennent de la pourtour de Paris et qui ont des légumes de très très bonne qualité. Mais j'ai pris conscience tout d'un coup que ce n'était pas du tout la même chose pour tout le monde et qu'il y avait différentes façons d'aborder la nourriture, toute simple à partir des légumes qui n'avaient pas besoin de beaucoup de transformation. Et je me suis questionnée, j'ai trouvé beaucoup de littérature sur ce qu'on disait des semences paysannes, des semences des grands semenciers qui confisquaient le vivant. Et j'ai pensé que c'était vraiment un sujet qui m'intéressait et j'ai voulu répondre à toutes les questions que je pouvais me poser en rencontrant des interlocuteurs sur tout le fil de cette, comme le sous-titre du livre, « De la terre à l'assiette ». Voilà, c'est une aventure personnelle, de curiosité personnelle. J'avais fait déjà un livre sur l'huître en question, qui était là un choc quand j'ai découvert qu'il y avait des huîtres triploïdes. Pour moi qui suis bretonne et qui mange des huîtres depuis mon enfance, j'ai été de dire, mais qu'est-ce qu'on fait aux huîtres ? Et curieusement, un des ostréiculteurs m'a dit, puisqu'il est question d'huîtres industrielles, entre guillemets, qui sont des huîtres de laboratoire, qui sont vendues pré-grossies et qui sont pas du tout de la biodiversité habituelle, pas nées en mer, mais nées en écloserie. Cet ostréiculteur m'a dit, mon père m'a dit, avec les huîtres, ils sont en train de faire les mêmes conneries qu'en agriculture. Donc il avait conscience qu'il y avait quelque chose qui changeait, c'est-à-dire que la nature était d'un côté et les scientifiques attachés à des industries, disons, étaient de l'autre côté. Donc ce sont ces enjeux-là qui m'ont motivée pour faire une enquête sur un sujet qui n'est pas du tout mon sujet de formation et simplement ma curiosité.
Alors sur les semences comme sur les huîtres, ce qui est très intéressant enfin dans ce que vous dites à l'instant, c'est qu'on va y revenir hein, sur cet aspect de confiscation juridique, en réalité, de quelque chose qui, me semble-t-il, en tout cas en tant que profane, hein, pour de nombreux siècles, était au contraire un bien commun. C'est-à-dire que le paysan, il faisait une récolte et il en mettait, en tout cas j'ai toujours lu ça, une partie de côté pour les prochaines semailles. Et personne venait lui demander un droit parce qu'il avait utilisé du blé truc ou du blé bidule. Alors, par rapport à ça, et sur les huîtres, ça, je ne suis pas du tout un spécialiste des huîtres, mais je me souviens qu'il y a aussi un aspect qu'on retrouve dans les semences, c'est, évidemment, derrière, il y a une notion de productivisme et d'efficacité, qui est de dire, oui, mais les semences naturelles ou les huîtres naturelles élevées en pleine mer sous la mer, si j'ose dire, elles sont plus vulnérables aux maladies, elles sont moins résistantes, elles résistent mal s'il y a un choc thermique, etc., etc. Alors que nous, nos trucs qu'on a travaillés en laboratoire, ils sont plus productifs, plus efficaces, résistent mieux aux maladies, etc. Donc, cette logique productiviste, est-ce qu'elle est complètement battue en brèche en fait, par des initiatives de retour aux semences paysannes ou d'espoir de retour aux semences paysannes ou par des initiatives telles que le SoFood hein, du côté de Juliette Elson, ou est-ce qu'il y a quand même un véritable enjeu sur la résistance aux maladies, etc.
Alors, les semences telles qu'elles étaient sélectionnées par les paysans, telles que par exemple quelqu'un que j'ai rencontré, enfin plusieurs maraîchers que j'ai rencontrés, qui font une sélection classique, tout à fait traditionnelle, avec des critères qu'ils veulent mettre en avant. Donc il arrive, il y a Pascal Pote par exemple qui en parle très bien, qui dit qu'il fait pas, il est connu pour ses tomates sans eau, mais en fait la région dans laquelle il est, dans le Languedoc, elle est à la fois sans eau et à la fois avec trop d'eau. Donc il arrive à sélectionner des légumes, des tomates ou des concombres ou des poivrons qui sont résistants à trop d'eau, pas assez d'eau, aux maladies, etc. C'est simplement un savoir-faire paysan et un bon sens. Les huîtres, c'est la même chose. On récolte des huîtres, on les met au sol ou on les met dans des sacs. C'est un bon sens, ce sont des méthodes culturales et qui se transmettent de père en fils. Et face à ça, il y a des éléments de la nature, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir du froid, il peut y avoir, pour les paysans, il peut y avoir de la grêle, il peut y avoir trop d'eau. Mais la nature, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un véritable ennemi et que tous les scientifiques voudraient protéger les gens de risques naturels. Ce qui fait que les paysans, à mon avis, pour la plupart, sont complètement assistés dans l'idée que la nature, elle existe, mais on doit vivre avec. Elle donne du bon goût à certains moments, quand c'est ensoleillé. D'autres fois, c'est plus ingrat, mais on vit avec et on vit au rythme des saisons et au rythme de ce que peut vous préserver la nature comme richesse. C'est ça la situation. Des scientifiques voudraient faire mieux, mieux que ce qui existe. Je le vois comme ça.
Bon, il y a des logiques économiques là derrière. Hein. C'est productiviste, vous avez utilisé le terme. Hein. C'est, je crois, quand on marchandise l'alimentation, quand on la fait basculer dans la sphère économique, forcément, on cherche ce qui est rentable. Hein. Et c'est la raison pour laquelle la viande est surreprésentée dans notre alimentation des pays riches, précisément parce que c'est facile d'avoir des animaux, de les tuer, de stocker la viande et d'avoir ça sous la main lorsque on doit faire un repas. Hein, et même un cuisinier qui ferait que du légume, il doit avoir des gens pour éplucher, il doit avoir des gens pour faire le marché tous les jours, pour avoir des produits frais, etc. Un type qui fait de la viande, il congèle, il met ça dans la chambre froide et puis il s'en sert quand il a besoin. Ou alors il prend de la viande fumée, salée, tout ce qu'on veut. Donc là, il y a eu véritablement une paresse. Hein, qui a contribué donc à industrialiser ces filières-là.
Je dirais que c'est pire qu'une paresse, c'est une volonté, en fait, ce que je disais tout à l'heure, de standardiser, parce que c'est plus simple. C'est plus simple de gérer trois ou quatre sortes. Vous allez au supermarché, vous avez trois sortes de pommes, alors que vous savez que vous avez des milliers de variétés de pommes. Vous les trouvez plus, simplement. C'est compliqué, et puis c'est pas du tout dans la logique industrielle. La logique industrielle, c'est vraiment de standardiser. Donc, on le fait avec l'alimentation.
Alors, pourtant, sur ça, il y a, depuis une quinzaine, vingtaine d'années, autant, effectivement, je pense qu'en alimentation, enfin, en agribusiness comme ailleurs, il y a cette volonté donc, d'efficacité par la standardisation, par des séries plus longues, en fait, et donc avec moins de variété. Autant, pour faire face à un consommateur, cette fois, pas nécessairement conscient, mais exigeant, qui justement ne veut pas toujours la même chose, ne veut pas toujours la même pomme, même si elle est bien verte. Il y a quand même un travail permanent de la part du marketing, des industriels, mais aussi des distributeurs de masse, pour fournir soit une variété artificielle, mais en tout cas une impression de changement. C'est la pomme de la semaine, le haricot vert du mois, enfin... qui ont les mêmes origines industrielles, mais qui entretiennent un sentiment peut-être un peu fallacieux hein, de diversité, on n'a pas tout réduit à deux espèces, regardez. Est-ce qu'on retrouve ça ? Est-ce que c'est, enfin, au-delà donc, de l'aspect purement marketing, mais est-ce que ça correspond à quelque chose qu'économiquement vous ressentez dans vos travaux également ?
Ah, mais c'est que les industries agroalimentaires ne se contentent pas que de faire du marketing. Je pense qu'ils emploient des chercheurs en biologie, en chimie, pour effectivement influer sur les goûts comme sur la mode. Oui, il y a des modes. Enfin, ils essayent, en tout cas.
Après, je pense que le taux de mortalité de ce que vous appelez le nouveau est considérable. Hein. C'est 90% des produits qui sont nouveaux ne passent pas l'année.
Oui.
Donc c'est bien une fuite en avant hein, qui consiste tout simplement à laisser penser à ceux qui mangent que effectivement ils satisfont ce que les anthropologues appellent la néophilie, c'est-à-dire que quand on veut manger on ne veut pas manger toujours la même chose, on a besoin de s'ouvrir au monde, de découvrir le monde, et donc on va aimer le nouveau. Voilà, c'est pour ça que c'est marqué nouveau sur l'emballage, mais que c'est pas nouveau dedans. Voilà, et on a le sentiment du nouveau. Voilà. Et en même temps, on est paresseux parce qu'on ne peut pas manger que du nouveau, parce qu'il faut, faire des efforts, il faut savoir ce qu'il y a dedans, etc. Et donc, on est néophobe. Voilà, on ne mange pas ce qu'on ne connaît pas. Voilà, et on va manger toujours la même chose. Il y a une très belle découverte que j'ai faite aux États-Unis il y a quelques années, dans une université où les restaurants sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Moi, je me suis levé à 3 heures du matin, 4 heures du matin, pour voir s'il y avait des gens dans les restaurants. Il y avait des gens. Et quand on fait l'enquête pour dire, alors, vous êtes content, c'est formidable, cette offre alimentaire, nulle part, eh bien, ils sont déçus, ils ne sont pas contents. Et pourquoi vous n'êtes pas content? Parce qu'on mange toujours la même chose. Je me dis, mais comment vous pouvez toujours manger la même chose alors que vous avez 3 restaurants qui vous donnent accès aux cuisines du monde? Parce qu'on ne peut pas choisir tout le temps. Le matin, à 3 heures du matin, quand vous allez manger quelque chose, hein, et que vous avez absolument toutes les cuisines, vous allez vers quelque chose que vous connaissez déjà. Et donc, si vous avez la pizza ou les spaghettis, vous allez manger ça souvent et vous allez donner, lors de l'enquête, l'impression que finalement, franchement, ça ne vaut pas le coup de faire autant d'efforts parce qu'on mange toujours la même chose.
Il y a eu, par exemple, je pense aux légumes anciens, cette mode des légumes anciens. On avait l'impression qu'on donnait aux consommateurs quelque chose qui avait été perdu, qu'on retrouvait, et en fait qui n'était pas des légumes anciens de qualité, mais qui étaient repris par les industriels. Et là aussi, c'était du nouveau, mais du nouveau ancien, dans ces modes de vintage et de retour à des valeurs qu'on croit meilleures, mais qui en fait ne le sont pas.
Mais c'est le retour pour vous, mais pour les jeunes, c'est la découverte.
Hein. Oui, mais non, pour moi, je n'ai jamais connu ces légumes anciens. Voilà. Je sais pas si
vous n'avez déjà même pas connu ça.
Non,
vous.
Même non.
Non, mais c'est vrai qu'il y a, en termes de biodiversité, il y a une prise de conscience qu'il faut effectivement faire évoluer la biodiversité. Ce n'est pas normal que 80% de ce qu'on mange vienne de moins d'une dizaine de plantes.
Oui.
Quand on dit aux politiques que si nous continuons comme ça, nous pourrions mourir de faim par millions de personnes, il faut dire, bon, c'est possible. C'est ce qui s'est passé en Irlande en 1847. Quand le Doryfor a attaqué la pomme de terre et que les récoltes ont été insuffisantes, eh bien, on a vu des millions d'Irlandais mourir de faim. Tout simplement, pourquoi? Parce qu'il y avait... Il y avait les récoltes manquaient, on avait le monoproduit qui était la pomme de terre, et puis il y avait un contrat politique léonin avec les Anglais qui imposait de fournir l'Angleterre en cas de baisse des récoltes, quoi qu'il en coûte aux autres. Il y avait des gens armés dans les campagnes irlandaises qui veillaient à ce que les pommes de terre, les rares pommes de terre qu'il y avait, partent dans les ports pour nourrir l'Angleterre. Alors, c'est bien géopolitique aussi. C'est à la fois une catastrophe de biodiversité, mais également quelque chose que l'on a fait avec les pays africains jusqu'en 2008, puisque la crise de 2008 et les révoltes de 2008, heureusement, 100 millions de personnes qui sont mortes, mais quand même beaucoup souffrant de faim, ont montré qu'on est capable de faire toujours les mêmes bêtises, quoi.
Si on jette un œil du côté de la science-fiction et de la dystopie, justement sans en faire une tarte à la crème, mais un des films à plus grand succès de ces dernières années, qui est Interstellar, Interstellar qui parle de toute autre chose que de famine et de géopolitique de l'alimentation, mais qui démarre de toute façon par un premier quart d'heure qui est consacré au fait que les seuls métiers désormais dans cette terre un peu repliée sur elle-même, valorisés, c'est les métiers d'agriculture, parce que des années de standardisation industrielle et de réduction du nombre d'espèces ont amené une vulnérabilité paradoxale, c'est-à-dire que ces espèces sont extraordinairement résistantes par rapport à toutes les autres, mais si jamais un virus, quelque chose, trouve la faille, tout tombe d'un coup, parce qu'il y a très très peu de diversité, et du coup, l'humanité est en train de s'éteindre dans Interstellar, parce que ces 5 espèces qui sont les plus productives, donc une espèce d'orge, une espèce de maïs, une de blé, une de riz, sont les meilleures du monde, mais s'il leur tombe quelque chose dessus, il n'y a pas d'échappatoire, et c'est peut-être la définition même finalement de l'absence de biodiversité au nom de la productivité, en fait.
Mais dans l'atlas qu'on a fait, l'atlas de l'alimentation, il y a des cartes sur les centres de biodiversité. Hein. Heureusement, les Russes, les Péruviens, les Danois ont mis en place des conservatoires de plantes qui sont à notre disposition, voilà, et qui pourront être réactivées, qui vont l'être d'ailleurs dans les années qui viennent. Parce que les collections de plantes qui ont été faites dans le monde entier sont faramineuses. Et donc, c'est vrai qu'on est actuellement dans une phase de l'aminage de la biodiversité, mais si on fait attention, on a des moyens de régler le problème pour l'instant.
Grande Flore Café, la sélection de la semaine.
Alors on se dirige doucement vers la fin de notre émission que l'on va poursuivre sous d'autres formes hors de ce studio, en fait, dans l'espace d'animation de Grande Contrôle, où nos intervenants vont vous parler peut-être un peu plus précisément du sucre, qui est le thème donc, de cette soirée dans le cadre de la Food Art Week. Je vous rappelle rapidement que donc, les livres de nos auteurs et de nos invités sont en vente au store de Grande Contrôle. Donc, ne serait-ce que pour le titre, il faut acheter les radis d'Ouzbékistan, hein, je suis désolé. L'alimentation demain, cultures et médiations, géopolitique de l'alimentation, le superbe atlas de l'alimentation, et puis donc le très beau, les semences en question aux ateliers d'Argol. Je ne résiste pas en fait, donc, à vous dire rapidement simplement que la semaine prochaine, ce sera tout à fait différent, puisqu'on fêtera dans cette émission et ensuite le lancement du numéro 3 d'une revue de création littéraire qui s'appelle Artichaut. Et donc, malgré tout, il y a un lien, puisqu'on parlait d'espèces végétales. Et je, pour finir sur une petite note littéraire également, je recommande à tous la lecture d'un livre qui s'appelle « Rivière de la nuit » de Xavier Boissel et qui parle du gigantesque coffre-fort de semences du Spitzberg, du Svalbard, et de ses tenants et aboutissants fictionnels et réels, et sur ses enjeux financiers notamment. Une lecture tout à fait passionnante et éminemment géopolitique, bien que ce soit du roman et de la fiction. Donc, je vous remercie beaucoup, Gilles Fumet, Juliette Elson et Catherine Floïc, et donc on va pouvoir rejoindre ensuite le public nombreux qui va se presser dans les espaces d'animation de Grande Contrôle. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation au Grande Flore Café.
Merci. Frightened by the sweet.
Libre et curieux.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.